Et bonjour à tous. En novembre dernier, nous vous avions proposé une enquête sur les dérives du trading en ligne. D'obscurs groupes privés promettent à des jeunes qu'ils vont devenir très riches grâce à Internet. Bonjour Marjolaine Corr.
Bonjour Jacques.
Après cette diffusion, nous avions reçu des témoignages de parents inquiets pour leurs enfants. Alors que nous sommes encore dans un semi-confinement favorable à ce genre de recrutement, eh bien vous allez nous raconter à nouveau ce que vous aviez découvert. Et puis nous recevrons Yvonique de Noël. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous avez publié cette semaine Les Espions du Vatican et vous allez tout nous dire de l'intense activité diplomatique de ce micro-État et de sa centaine d'espions qui conduisent des missions tout autour du globe.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses ? Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au restaurant.
Voilà, c'est une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, qui a été vue par plus d'un million d'internautes. Mais derrière cet extrait qui vous fait peut-être sourire, il y a de nombreux jeunes qui se sont retrouvés endettés et qui ont perdu beaucoup parce qu'ils ont cru dans les chimères de ce qu'on appelle le trading en ligne. Alors on va voir quels sont les dangers de cette activité. Mais d'abord en deux mots, Marjolaine Corr, le trading en ligne c'est quoi ?
Le trading c'est jouer en bourse depuis son téléphone ou son ordinateur en espérant tirer quelques revenus de ses placements. Alors il y a la bourse classique et puis il y a des marchés spécifiques comme le Forex, le marché des devises.
Et au départ, ça commence comme un conte de fées.
Oui, l'étudiant qui se trouve seul chez lui va voir sur Internet des jeunes qui semblent avoir réussi. Ils s'affichent avec Rolex au poignet, marque ostensible sur les t-shirts, jet ski, Lamborghini, grande vie à Dubaï. Adnan est l'un d'entre eux. Il a pris l'habitude de partager sur les réseaux son ascension, comme lorsqu'il va acheter sa première Rolex tout en diamant.
Voilà, donc là, on vient de signer pour la petite montre, le petit bijou, un de mes rêves qui se concrétise aujourd'hui, je suis super heureux, super fier. Thank you very much. Regardez-moi ça, les diamants incroyables. C'est enfin à moi, mon rêve. Et croyez-moi que c'est que le début. Le mois prochain et les prochains mois, les prochaines années vont être exceptionnels. Soyez là, soyez connectés.
Soyez connectés, c'est que le début. Donc on fait de la retape en fait, en laissant entendre qu'on va devenir très riche.
C'est ça, et Adnan a tellement bien réussi dans la vie qu'il explique qu'il veut en faire profiter les autres. En leur faisant régulièrement gagner des iPhones, des sommes en Bitcoin et même un voyage à Dubaï.
Je vais offrir un voyage à 12 personnes pour Dubaï. Du 25 novembre au 2 décembre 2020. Pour vous dire l'équipe, je suis à plus de 17 000 euros d'investissement pour ce projet. Donc le 25 novembre, check-in à 14h à l'hôtel 5 étoiles. Le 26, réveillons-nous avec une belle balade en jet-ski. À 18h, le dîner avec une vue imprenable sur le spectacle de la fontaine de Dubaï. Le 27 novembre, formation trading le matin. Vu les compétences que j'ai en trading, on va pouvoir vous dupliquer un maximum de compétences, ça va être un truc de fou. Ensuite à 15h, pick-up à l'hôtel pour aller dans le désert. Et nous finirons la journée avec un dîner et des spectacles midi désert. Le 1er décembre, journée sur un yacht de luxe. Ah là 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 là! Ceux qui disaient que le trading c'est de l'arnaque, vous êtes où?
Yacht de luxe, hôtel 5 étoiles. Donc le trading, si on l'entend Marjolaine, c'est une poule aux œufs d'or.
Oui, lui affirme que c'est en jouant en bourse sur le marché du Forex, donc le marché d'échange, et sur celui des crypto-monnaies qu'il aurait fait fortune. Il raconte une ascension fulgurante et il n'est pas le seul, d'autres racontent la même histoire. Ils sont partis de rien et personne ne croyait en eux. Samba Diagne est un de ces traders à succès. Il gagnerait 100 000 dollars par mois, alors qu'il y a 5 ans, il devait éponger des dettes suite au lancement d'une affaire qui n'aurait pas marché. Il le raconte sur sa chaîne YouTube.
Auparavant, on était de plus de 50 000 euros. Et aujourd'hui, à force de travail acharné, bien sûr, rien n'arrive par hasard. Je suis passé de rien du tout, encore une fois. Et aujourd'hui, je suis à Dubaï. J'ai un appartement de dingue, je suis en totale gratitude pour ce style de vie. Ma réalité d'aujourd'hui est plus belle que celle que je n'aurais jamais imaginée dans mes rêves.
Ouais, donc lui aussi dit vivre un conte de fées. Maintenant, il n'y a rien sur le net qui permette de douter de ces versions?
Mais pas vraiment, parce que les rois du trading sont aussi des pros de la com. Ils soignent leur e-réputation sur les réseaux. Vous pouvez même trouver des articles de Sambadienne sur le site de Forbes, par exemple. Mais personne ne fait attention au fait que ces articles, en réalité, ce sont des publi-reportages.
Autrement dit, ils ressemblent à de vrais articles, mais en fait, ils sont écrits par ces entrepreneurs.
Exactement, c'est de l'autopromotion, rien de plus. Et le message qu'ils véhiculent, c'est « Vous aussi, vous pouvez devenir riche en nous rejoignant ».
Et comment on fait pour les rejoindre?
Eh bien, pour ça, il faut s'inscrire à une formation de trading en ligne.
Ce qui veut dire?
Vous payez l'accès à un pack de formation et vous obtenez un code pour visionner une série de vidéos qui vous expliqueront comment jouer en bourse sur les marchés. J'ai eu droit à une présentation d'une heure par visio pour la société LDS, Learn Do Succeed. Et voilà ce que la recruteuse m'a proposé.
Si tu as des vraies stratégies et que tu connais ton potentiel d'investisseur et que ce potentiel, tu l'utilises justement pour le faire fructifier, pour gagner de l'argent, eh ben là, ça va être intéressant parce qu'en fait, tu vas pouvoir apprendre des choses qui vont te permettre de faire de l'argent avec ton argent. Et en fait, c'est ce qu'on va faire déjà via le Forex, qui est du coup le marché sur lequel on fait du trading.
Et pour faire du trading sur le Forex, je fais comment ?
Alors, on m'a proposé de choisir entre plusieurs formules. L'achat d'un pack de formation qui coûte de 100 à 1500 dollars selon les options retenues. Puis, un abonnement mensuel compris entre 100 et 175 dollars.
Ouais, c'est quand même pas rien. Et quand on est étudiant, alors on fait comment pour débourser autant d'argent?
Eh bien, c'est là où votre interlocuteur dégaine son second argument. Si vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez qu'à vendre le pack de formation à votre tour, à vos amis, à votre famille, pour toucher des commissions sur ces ventes. C'est ce qu'on appelle le marketing relationnel. Mohamed, lui, recrute pour le groupe PNV et voilà ce qu'il raconte à ses nouveaux traders.
Ce qu'il faut se dire, c'est que le trading aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut vous créer un revenu, mais un revenu qui varie. Alors que le marketing relationnel vous crée un revenu qui est stable et qui est ascendant. Le revenu que vous allez pouvoir générer en marketing relationnel est un revenu que vous pouvez redistribuer en trading.
Oui, j'ai un peu de mal à suivre quand même, Marjolaine. Je fais du marketing relationnel que je réinvestis en faisant du trading, c'est ça?
Oui, le marketing relationnel, c'est recruter des copains qui feront la même chose que vous. C'est comme parrainer quelqu'un, en fait. Du coup, ça vous rapporte de l'argent et vous allez l'investir en bourse.
Mais c'est pas dangereux, risqué de spéculer sur le Forex?
Le Forex est effectivement connu pour sa volatilité, mais en réalité, on ne demande pas aux jeunes qui rejoignent ces structures d'apprendre à faire des projections ou des calculs savants, non. En fait, ce sont d'autres qui vont faire du trading à leur place. Adnan, qu'on a entendu tout à l'heure, envoie à ses abonnés des consignes de placement via un système de messagerie comme WhatsApp. Il l'explique dans cette vidéo.
Je vous envoie une analyse, ok? J'ai une analyse, je suis allé sur les marchés financiers, j'ai analyse. Vous avez achat NZDJPY. Vous avez le prix d'entrée, le stop loss et les take profit. Le stop loss, c'est la limite de perte. Les TP, c'est la limite de gain. Donc, c'est très simple. Et c'est pour ça qu'encore une fois, même à côté de vos études, de votre travail, pas d'excuses, parce que le trade tourne tout seul. Vous n'avez pas besoin d'être H24 sur votre téléphone à regarder votre téléphone. Non, tout se fait automatiquement.
Bon, c'est très simple. En même temps, quand on l'écoute, Marjolaine, c'est assez incompréhensible quand même.
Mais ça fait partie du système, hein. Noyer le jeune sous un vocabulaire technique qui donne l'impression qu'on maîtrise son sujet. Mais on prend aussi ses précautions, hein. Très souvent, ces messages sont accompagnés d'un petit commentaire de la part de ces jeunes traders qui expliquent qu'ils ne sont pas des conseillers financiers, mais qu'ils se contentent de faire part de leur avis sur un groupe privé.
Et si je décide de me lancer, donc je paye ma formation, et qu'est-ce qui se passe alors?
Alors vous pouvez vous former au trading en suivant les vidéos, et j'ai eu accès au contenu de formation fourni par l'un de ces groupes, Pro Network Vision, et j'ai demandé à un trader professionnel de me donner son avis sur la qualité de cette formation. Philippe Alézard a visionné les vidéos pour nous et il est très sceptique sur ce qu'il a vu.
On n'est pas nécessairement effectivement obligé d'être mathématicien si on veut faire du trading, mais en fait, ça nécessite quand même une compréhension des marchés, une compréhension de l'algorithmie, et ça, c'est pas parce qu'on a vu ça, n'importe qui peut lire ce type de vidéo, donc on vous donne un alphabet, et puis c'est tout. C'est pas parce que vous savez lire des lettres que vous savez lire un texte et écrire un texte. Donc ça s'apprend, c'est de l'habitude, et à mon sens, c'est absolument pas suffisant pour pouvoir, en tout cas, devenir un trader. Si on veut s'amuser investir une centaine d'euros et perdre une centaine d'euros en quelques minutes, c'est effectivement le bon objet.
Donc pour lui, ces formations sont plus que légères. Mais alors comment ils font pour gagner de l'argent, ces apprentis traders ?
Eh bien avec leur pack de formation, on leur donne un lien vers un broker. Le broker, c'est la plateforme qui va leur permettre de jouer en bourse. Et ce lien, en fait, il n'est pas innocent car il va permettre à celui qui vous le donne de toucher une commission sur vos échanges boursiers, comme nous l'explique encore Philippe Alézard.
L'objectif pour le broker, c'est d'avoir de plus en plus de gens qui viennent sur leur site. Parce que du coup, ils vont avoir plus de liquidités. Ils sont à peu près tous systématiquement commissionnés. Il y en a des gens, effectivement, qui touchent des bonnes sommes d'argent parce qu'ils vont faire un petit peu le rabatteur et ils vont apporter aux brokers beaucoup de clients qui vont faire beaucoup de trading sur lesquels eux vont gagner beaucoup d'argent.
Mais du coup, ce sont les recruteurs qui gagnent beaucoup, Marjolaine, pas les jeunes qui s'inscrivent sur la plateforme.
Ben non, mais en fait, on leur promet de gagner de l'argent autrement. S'ils recrutent beaucoup de camarades, ils peuvent gravir des échelons.
Gravir des échelons, c'est-à-dire ?
Il y a un système de récompense à la clé. Si vous recrutez 3 personnes, votre abonnement à la formation devient gratuit. Si vous en recrutez 12, vous touchez 600 $ par mois. À partir de 30, vous avez 1 000 $ par mois et ça monte comme ça jusqu'à 500 000 $ par mois.
Mais c'est pas un système pyramidal, ça ?
Bah ça y ressemble, si, et ça vous encourage à recruter toujours plus de monde pour gagner plus. Paul Pesquin, cet étudiant en école de commerce, en janvier dernier, il s'est laissé séduire par le concept et il a été surpris de découvrir le quotidien de celui qu'il avait recruté.
Ça fait 2 ans qu'il travaille comme un acharné, nuit et jour, les week-ends, je vous dis même pas. C'est même pas sur les marchés financiers, non, c'est il travaille comme un acharné pour inscrire un maximum de personnes. Je me souviens que tous les jours, il m'envoyait un message. Est-ce que Paul, aujourd'hui, tu as fait ton quota de contact? Ça veut dire que tous les jours, on devait envoyer à 30 personnes sur les réseaux un message pour savoir s'ils voudraient pas rejoindre cette fameuse opportunité. C'est pas du tout la vie d'une personne qui a 18 ou 20 ans. C'est ça aussi qui m'a freiné quand j'ai intégré ce système sur le fait qu'on n'a plus de vie. On nous demande de ne plus avoir de vie.
Oui, on est bien loin là de la belle vie au soleil, des yachts et des nuits étoilées dans le désert.
Oui, et en réalité, les derniers arrivés dans la boucle doivent tout donner. Et pour cela, ils utilisent avant tout les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat. Mais ils organisent aussi des week-ends Airbnb.
Des week-ends Airbnb.
Oui, un petit groupe de membres qui souhaitent développer son réseau se réunit et loue un Airbnb, alors généralement une adresse assez prestigieuse, où ils tiennent des conférences. Ils y expliquent ce qu'est le concept de la formation et font en sorte de faire adhérer un maximum de jeunes en un temps record.
On y fait du recrutement, quoi.
C'est ça, et à la mi-octobre, j'ai pu visionner des images tournées dans un de ces Airbnb où l'on voit une 30aine de personnes non masquées, entassées dans une petite salle, et une maman dont les enfants ont été approchés dans le sud-ouest m'a affirmé que ces sessions de recrutement continuaient dans sa région pendant le confinement.
Autrement dit, ce sont des clusters en puissance. Bon, maintenant, si on fait tout ça, Marjolaine, est-ce qu'on réussit vraiment ?
Ben, certains, oui. Et ils deviennent les têtes d'affiche sur les réseaux sociaux, les exemples à suivre. Mais d'autres découvrent un système foncièrement injuste. C'est le cas de Moussa, qui a réussi à recruter très rapidement 30 adhérents qui ont souscrit à un abonnement de 300 € par mois chez Attitude Legacy.
30 personnes à 300 €, ça fait 9 000 € pour la société. Et moi, j'ai touché 300 €, quoi, à peu près, ouais. Quand je disais, ben non, mais je devais gagner plus, on me disait, non, mais il y a ci, mais il y a ça, mais tes branches sont pas équitables. Il y avait toujours un truc, quoi.
Et je précise que j'ai contacté Attitude Legacy, qui n'a pas donné suite à ma demande d'interview.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors maintenant qu'on a vu ce qu'est le trading en ligne, comment des groupes approchent des jeunes en leur faisant miroiter des gros gains, et tout ça avec un vocabulaire assez fumeux, Marjolaine Corr, posons-nous la question, ce système de recrutement des amis pour payer des formations, est-ce qu'il est légal ?
Alors c'est la question, parce qu'on l'a vu, on a affaire ici à un système pyramidal bien connu des autorités. Écoutez Rémi Slov, il est directeur de cabinet adjoint à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.
La vente de formations au trading, les réseaux multiniveaux d'une manière générale, peuvent rentrer dans le cas de dérive dans ce qu'on appelle les ventes à la boule de neige. Ce sont des ventes qui sont réprimées par le code de la consommation et il y a un certain nombre de pratiques qui à cet égard sont interdites. Par exemple, il est interdit de recruter un affilié si on soumet son recrutement à un prix d'entrée ou à l'achat, en l'occurrence, d'une formation au trading, et si la somme qui a été versée pour rentrer est reversée ou donne lieu à des avantages ou des sommes versées aux autres adhérents. Ça, c'est une pratique qui est interdite dans le code de la consommation.
Donc c'est illégal.
A priori, oui. Et les dégâts moraux sont palpables chez ceux qui en sont sortis, parce qu'il y a véritablement une emprise sur ces jeunes qui rejoignent le groupe. Ceux qui veulent tenter l'aventure doivent développer un état d'esprit très particulier.
C'est-à-dire ?
Eh bien là encore, si on reprend le vocabulaire utilisé, il faut développer le bon mindset, autrement dit le bon état d'esprit, et être coachable. Paul Pesquins, un des jeunes qui est sorti du système, s'en souvient très bien.
Il y a le mindset du trader, donc celui qui a confiance en lui, celui qui n'a peur de rien, celui qui prendra une décision et qui la tiendra jusqu'au bout. Pour eux, quelqu'un qui avait un mindset voilà, en béton, c'était quelqu'un qui allait réussir et percer dans ce business. Celui qui n'a pas de mindset, c'est celui qui va se remettre en doute tout le temps, il va avoir des pertes de confiance en lui. C'est aussi quelqu'un qui... pour eux, il faut qu'une personne soit coachable, c'est le mot qu'ils sortent tout le temps. Parce que pour eux, quelqu'un qui n'est pas coachable, c'est quelqu'un qui est non manipulable. On ne va pas pouvoir lui donner des objectifs long terme parce qu'il en fera qu'à sa tête et qu'il ne les écoutera pas.
Coachable, mindset, ça fait un peu charabia quand même.
Oui, mais ça fait partie du système. Il faut rentrer dans un mode de pensée et intégrer une façon de parler. Certains vous proposent même d'étudier des livres de manipulation. Et si vous ne parvenez pas à recruter, c'est de votre faute. C'est parce que vous ne vous êtes pas fondu dans la bonne attitude. Mohamed, l'un des leaders d'une société qui s'appelle IAM, le dit clairement dans l'une de ses vidéos de formation. Il développe l'idée que tout adhérent passe par quatre phases, le recrutement, le développement de son équipe, son management, puis vient la phase du doute.
La quatrième phase, c'est la phase de blâme. C'est la phase où je me dis, ouais, mais je sais pas si IAM fonctionne pour moi. Je vais te donner une réponse, toi qui es en train de te poser cette question. IAM, ça fonctionne pour des milliers de personnes. C'est juste que t'es pas assez sincère avec toi-même pour te dire la vérité et te dire que c'est toi aujourd'hui le problème et ce n'est pas la plateforme.
C'est toi le problème.
Eh oui, et ça évite de questionner le système lui-même. C'est un véritable piège qui se referme sur les membres. Moussa, par exemple, en a fait les frais.
Quand j'étais, j'avais l'impression que j'avais plus du tout de vie, surtout qu'on nous disait de nous éloigner un peu de nos amis et de nos familles, parce que forcément, nos amis et notre famille ne sont jamais d'accord avec nous pour ce genre de choses. Moi, par exemple, je sais que j'ai perdu tous mes amis, je me suis éloigné de ma famille, etc. Ça a été très dur, même quand je suis sorti. Bon, j'ai réussi à faire en sorte de m'excuser et de les récupérer, mais ça a pris énormément de temps. J'ai été seul pendant un moment et ça a été très très dur quand je suis sorti. Et encore, heureusement, moi, j'ai réussi à reprendre un train de vie normal. J'en connais qui, eux, ont raté leurs études et tout, quoi.
Rater ses études et au passage être délesté de quelques milliers d'euros. Paul, un autre jeune que j'ai rencontré, estime par exemple ses pertes à 1500 euros.
Mais comment ces jeunes tombent dans le panneau, Marjolaine ? Ce sont souvent des étudiants, ils sont cultivés, ils savent que l'argent facile c'est forcément suspect.
Bien, c'est une vraie question ça. Ça a d'ailleurs étonné Jean-Baptiste Reynès qui est professeur dans un collège des Hauts-de-Seine. Il a vu certains de ses anciens élèves rejoindre ces groupes.
On pouvait s'attendre à ce soit des élèves un peu naïfs, qui aient pas beaucoup de recul ou d'esprit critique. Et c'était complètement l'inverse. Les élèves concernés étaient, en tout cas quand on les avait en classe, des élèves qui étaient très sérieux, qui apprenaient leurs leçons très régulièrement, qui avaient beaucoup d'esprit critique, qui aimaient participer, donc se mettre en valeur souvent à l'oral, etc. Et en fait, je pense que à force d'échanger avec des personnes qui les ont mis en valeur, qui ont pointé du doigt sûrement leur qualité, ils ont eu envie de continuer et de profiter de cette valorisation. Donc ça, c'est un des éléments qui nous a aussi interpellés quand on a commencé à peaufiner un petit peu nos recherches sur tout ça, quoi.
Et comment on explique ça, cette attirance de la part d'élèves a priori doués ?
Eh bien, par une forme d'embrigadement. Et c'est pour cela que la MIVILUDE, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui a maintenant rejoint le ministère de l'Intérieur, s'intéresse à ce phénomène. Anne-Marie Courage est conseillère à la MIVILUDE. Elle a reçu une dizaine d'alertes de parents inquiets et l'âge des victimes lui paraît très préoccupant.
La cible que nous avons pu observer, c'est plutôt 18-25 ans, voire 16-25 ans. Et donc c'est à un moment du passage à l'âge adulte qui est extrêmement important et on les encourage à rompre avec toutes leurs activités, qu'elles soient une activité d'apprentissage ou une activité professionnelle, pour s'adonner entièrement et pleinement avec l'espoir de gagner des millions à la clé en un espace-temps record.
Et c'est aussi pour ça que l'autorité des marchés financiers diffuse régulièrement des alertes à propos de ces groupes. Mais le réseau est si vaste et la pression pour recruter est si forte qu'on retrouve toujours aujourd'hui des jeunes lycéens parmi leurs membres, comme le prouvent les propos de ce mineur qui s'adresse à un de ses camarades.
Moi, je suis en première, mais après, ça veut pas dire grand-chose parce qu'au final, je fais partie des 4 plus gros leaders d'MB. Après, en fait, c'est juste, plus tu commences tôt, plus ça vient tôt, tu vois, les résultats, que ce soit financier ou mental, enfin, c'est pareil pour tout. Hein. Du coup, ouais, j'ai 16 ans.
J'ai 16 ans, donc il est effectivement mineur. Mais il y a une autre dérive qu'on peut encore identifier.
Et oui, il y a aussi la question de la fiscalité, parce que ceux qui touchent des commissions reçoivent un simple virement. Et selon Moussa, il semble qu'on soit assez peu regardant sur les impôts qu'on est censé payer.
On était payé par Skrill, par exemple, qui est une plateforme de paiement sur Internet comme PayPal, etc. Et l'argent allait sur notre compte Skrill. Et une fois qu'on l'avait sur notre compte Skrill, on pouvait l'envoyer à notre compte PayPal ou même à notre compte bancaire. Mais on nous disait que si on l'envoyait à notre compte bancaire, il ne fallait pas envoyer de trop grosses sommes parce que sinon, voilà, vu que ce n'était pas forcément déclaré, etc. Mais non, on ne m'a pas appris à déclarer, on ne m'a pas appris quoi que ce soit.
Autrement dit, cet argent qu'on gagne par les formations ou par le trading, il passe pour une part sous les radars du fisc.
Eh bien, en tout cas, selon le trader professionnel Philippe Alézard, qui a visionné pour nous les vidéos de formation, tous ces traders formateurs n'ont pas l'air très au point sur les règles comptables.
Là, ils font des confusions, par exemple, entre le bilan et le compte d'exploitation. Enfin, ils font des confusions classiques que font les gens qui n'ont pas la formation économique. Les confusions classiques qui sont faites, et là, c'est quand même assez étonnant, effectivement, de voir ce type de confusion. Dans une formation que j'ai pu voir, où ils formaient les gens sur la partie économique, et là, il y avait des erreurs assez grossières.
Oui, mais en plus, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart de ces jeunes n'ont aucun statut pour déclarer ces sommes. Et pire encore, certains incitent leurs camarades à créer des sociétés à l'étranger, en croyant que ça leur permet d'échapper au fisc. Écoutez ce que raconte cette recruteuse qui s'adresse à un jeune.
Nous, personnellement, arriver à 2000 euros, étant donné qu'on vient aussi du trading, on ne le déclare pas du tout en France, on le déclare à Dubaï. Donc, en fait, on a forcément notre société là-bas. Donc, à partir de ce moment-là, le taux d'imposition, on ne l'a quasiment pas. Parce que, déjà, tu as ta société. Et en plus de ça, tu n'es pas obligé de le déclarer en France à partir du moment où tu as une société à l'étranger.
D'ailleurs, dans les témoignages que j'ai recueillis, tous confirment que ces grands leaders qui perçoivent des dizaines de milliers d'euros exhibaient fièrement leurs cartes de paiement qui n'étaient pas de simples cartes bancaires, mais des cartes de crypto-monnaie.
Oui, donc invisibles aux yeux du fisc.
Oui, alors ça ne pose aucun problème pour ceux qui ont décidé d'aller vivre à Dubaï. En revanche, une bonne partie d'entre eux vit sur le territoire français, mais semblent ne rien déclarer en France.
Bon, mais alors, allons un peu plus loin, Marjolaine. Qui sont ces fameux leaders? Qui il y a derrière ce système?
Alors, à l'origine de ces groupes, on trouve des sociétés américaines comme Quvera, eMarkets Live. Elles ont peu à peu constitué un réseau en France, un réseau qui a fait des petits. Mais comme la structure est pyramidale, il faut régulièrement redémarrer une pyramide. Et c'est comme ça qu'on trouve Pro Network Vision ou Attitude Legacy, qui sont en fait des émanations de leurs grandes sœurs américaines. Et la galaxie de ces groupes semble infinie.
Et on laisse faire.
Eh bien, la répression des fraudes m'a affirmé que des enquêtes étaient en cours. Mais comme ces structures sont très mouvantes et se cache dans la zone grise de l'Internet, ça complique la tâche de l'administration.
Oui, en attendant, si je vous entends bien, il y a vraiment deux niveaux. Il y a ceux qui organisent le système, et puis il y a les pigeons, en quelque sorte.
Oui, et ce qui est terrible, c'est qu'on sent une grande sincérité chez ces jeunes qui sont vraiment investis à tous les niveaux et qui montrent une volonté de réussir et travaillent effectivement avec acharnement. C'est ce qui explique aussi le ressentiment qu'éprouve Moussa quand il pense à ses leaders.
Dans leur discours, enfin, moi, c'est ce qui m'a fait rentrer, bien sûr. Ils m'ont donné la confiance. Donc, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils étaient là pour moi, pour m'aider, pour me faire gagner de l'argent. Mais au final, en y réfléchissant bien, je pense que c'est surtout à leur profit parce que ils disent que le marketing de réseau, c'est quelque chose qui a rendu beaucoup de gens riches, d'accord. Mais vous pouvez vous renseigner aussi sur les chiffres. Ceux qui réussissent dans le marketing de réseau, c'est 1% des personnes. Donc, sur 1%, il y a quand même 99% de perdants. C'est-à-dire que les gens qui sont à la tête, bah moralement, ça leur fait rien qu'il y a 99% de leurs équipes qui gagnent pas tant qu'il y a 1% des personnes qu'ils ont réussi à faire gagner. Et moi, personnellement, je trouve pas ça moral. Donc, tu peux pas dire que tu veux le bien de tous alors que tu es au courant que ton domaine ne fait gagner que 1% des gens, quoi.
Oui, le problème, c'est que l'attirance pour ce type de système ne faiblit pas. Vous aviez identifié, Marjolaine, en novembre dernier encore, une réunion de recrutement en ligne à laquelle près de 3000 jeunes s'étaient connectés. Allez, on va en rester là pour aujourd'hui sur ce sujet. Si vous le souhaitez, je vous rappelle que cette enquête, vous pouvez la réécouter, la lire, la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de la cellule investigation de Radio France ou sur Twitter, investigation RF. Mais secret d'info, ça continue. Restez avec nous. Qui sont les espions du Vatican? On en parle dans quelques instants. Côté psychédélique qui nous rappelle les 70s, c'est un ovni dans le paysage musical français. Et oui, c'est bien un français, c'est Rover qui a composé cette chanson. To This Tree, c'est son titre et elle est extraite de son nouvel album qui sortira le 7 mai prochain.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Et nous recevons maintenant Yvonique de Noël, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez un livre intitulé « Les espions du Vatican » et vous y expliquez que dans les périodes les plus intenses, on chiffre en centaines le nombre d'espions qui travaillaient pour le Vatican. Alors ça mérite quelques explications. Qui sont ces centaines d'espions ?
Alors d'abord, le Vatican lui-même affirme ne pas avoir de service d'espionnage. Structurellement, c'est vrai. Néanmoins, de temps en temps, il est obligé d'avoir recours à des missions qui relèvent du renseignement, voire même des opérations spéciales. En général, ces espions, entre guillemets, ce sont tout simplement des prêtres, des prélats, qui effectuent des missions qui sortent un petit peu des clous de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Par exemple, sous Jean-Paul II, on a quelques dizaines de prélats qui font régulièrement des voyages en Pologne pour y amener de l'argent, pour y amener des moyens matériels permettant à Solidarité de développer sa résistance.
Et puis, il y a aussi auprès du pape des gens qui font du renseignement pour d'autres. Vous évoquez par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, le confident du pape Benoît XV, qui est un agent des services allemands.
Oui, c'est documenté, le chambellan du pape Benoît XV, le prêtre bavarois Rudolf Gerlach, est un agent allemand. Il utilise d'ailleurs même la valise diplomatique, ouais, pour récupérer des fonds secrets et arroser une partie de la presse italienne afin qu'elle publie des papiers favorable à l'Allemagne.
Alors, vous l'évoquiez déjà tout à l'heure, mais le grand combat du Vatican, et j'allais dire l'activité de renseignement peut-être majeure sur la période contemporaine, ça a été la lutte contre le communisme.
Oui, ça a été vraiment le grand combat. Et dans ce grand combat, il y a deux papes qui se sont particulièrement impliqués. C'est Pie XII au début de la période et Jean-Paul II à la fin de la guerre froide. Tous les deux ont ordonné des missions secrètes de l'autre côté du rideau de fer. Tous les deux ont mis des moyens importants. Tous les deux ont ouvert des collaborations avec les services secrets, notamment américains, mais également britanniques, français, etc. Bref, il a beaucoup été question, sous ces deux papes, d'actions de renseignement.
Et puis, on fait l'inverse après, c'est-à-dire que le Vatican va travailler ou va œuvrer à essayer de rapprocher l'Est et l'Ouest, et on le voit notamment à Cuba.
Alors effectivement, après Pie XII, arrive un pape qui décide de changer de politique parce qu'il constate que la politique d'affrontement ouvert avec le bloc de l'Est n'a pas produit d'effet et que de toute façon le Vatican a été largement défait. Et donc Jean XXIII décide d'entamer un rapprochement avec Khrouchtchev. Il va d'ailleurs jouer un rôle très important lors de la crise des fusées de Cuba, lorsque on est véritablement au bord de la guerre, pour servir d'intermédiaire et permettre à tout le monde de faire un pas en arrière tout en sauvant la face. C'est-à-dire, aussi bien du côté de Kennedy que du côté de Khrouchtchev, on dit « Ah bah c'est l'autorité morale du pape qui a permis de détendre la situation. » Et pour ça,
personne n'a perdu, il y a un intermédiaire.
Personne n'a perdu et il utilise pour cela des intermédiaires qui ne sont pas du tout les diplomates officiels de l'Église. Il s'appuie sur un patron de presse juif qui n'est pas du tout, je dirais, dans les collaborateurs officiels du Vatican.
Et puis on retrouve un petit peu la même chose, beaucoup plus tard, avec Barack Obama et Raúl Castro. Cette fois-ci, c'est le pape François qui officie.
Alors, le pape François, effectivement, est un Américain. Et donc, il a une sensibilité particulière pour ces sujets américains. Et il va effectivement, en grande complicité avec Barack Obama, jouer un rôle d'intermédiaire avec Cuba. Et ce sont là, pour le coup, les diplomates du Vatican qui vont être à la manœuvre de manière extrêmement discrète pour arriver à rapprocher les positions et aboutir à la réouverture des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba, ce qui est un événement.
Alors, ce rôle d'intermédiaire, dont on a vu qu'il était joué par le Vatican, notamment entre bloc de l'Est et bloc de l'Ouest, on le retrouve également lors de la guerre en Irak, où en 2002, on se rend compte que, d'abord, la DGSE est en contact avec le Vatican et ils partagent leurs doutes sur l'existence de ces pseudo-armes de destruction massive de Saddam Hussein. Mais ça va aller plus loin. Rome va organiser une rencontre.
Oui, alors, la DGSE a régulièrement des contacts avec le Vatican. Et dans cette affaire, effectivement, on est au bord de la guerre en Irak. Un prêtre, qui est un Français, qui a effectué des missions discrètes pour le compte de la secrétaire d'État, est assez proche de Tariq Aziz et lui propose de venir rencontrer le pape pour effectivement évoquer les moyens d'empêcher
Tariq Aziz, donc ancien ministre des Affaires étrangères de Saddam Hussein.
Donc à l'époque, il est le ministre des Affaires étrangères de Saddam Hussein. Et la DGSE, avec lequel ce prêtre Jean-Marie Benjamin est en relation, dit bah, « Nous, on aimerait bien aussi le rencontrer, parce que la France voudrait lui proposer de passer à l'Ouest et de
l'asile.
L'asile politique. »
Et le résultat de ça ?
Alors il refuse de manière tout à fait digne. Il explique que c'est très aimable de lui proposer cette voie de sortie, mais qu'il restera jusqu'au bout auprès de Saddam Hussein.
Alors, vous évoquez également le rôle de l'Église dans, et c'est aujourd'hui, ça redevient d'actualité, dans le génocide rwandais. L'Église qui a contribué à façonner ce nationalisme hutu, et vous explorez ces liens étroits qui existent entre le régime donc de l'ancien président, Biarimana, et le fait que l'Église, finalement, n'a pas opposé de condamnation morale à ces massacres.
Alors, d'abord, c'est pas toute l'Église, c'est-à-dire que c'est une partie de l'Église qu'on pourrait désigner sous le vocable des pères blancs missionnaires belges qui ont été très présents dans la première moitié du XXe siècle. Et effectivement, au sein du clergé rwandais, il y a eu une petite fraction de prêtres et de religieuses qui se sont gravement compromis, voire pour certains qui ont participé au massacre de manière absolument ahurissante. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, on les a en quelque sorte exfiltrés, on les a aidés à échapper parfois à la justice internationale.
Quand vous dites « on »,
D'abord, oui, les fameux réseaux des Pères Blancs, c'est une évidence. Et il y a eu, je pense, d'autres complicités au niveau du Vatican. Il y a eu un certain nombre de complaisances, sans doute liées à de l'ignorance et au fait qu'il y a eu une grosse propagande anti-Tutsi de la part de ces fameux réseaux et que ce n'est que tardivement que les responsables du Vatican ont pris conscience de ce qui s'était réellement passé. C'est en 2017 que le pape François a fait un acte de contrition complet qui a permis du reste de renouer les fils avec le gouvernement rwandais.
Alors on a évoqué les espions du Vatican, mais le Vatican, ce petit État, ce micro-État, est également espionné. Et vous racontez qu'en 1978, on voit deux hommes se présenter au Vatican, soi-disant pour un devis de réfection des installations électriques. Ils vont rester une semaine et ils vont découvrir 11 micros.
Oui, en fait, ce sont des agents des services secrets italiens. Ils sont venus à la demande du patron de la gendarmerie vaticane. Et effectivement, ils trouvent 11 micros. Mais ils ne trouvent pas 11 micros posés par le même service. C'est ça qui est fou. Ce sont des micros posés à des époques différentes par plusieurs services de l'Est, mais aussi par les services secrets américains. Donc le Vatican est espionné aussi bien par l'Est que par l'Ouest.
Au point que en 2013, vous racontez aussi que la NSA se déchaîne et écoute les conversations des prélats avant le conclave pour essayer de savoir avant l'heure qui potentiellement sera le nouveau pape.
Alors ça, c'est une tradition très drôle de la CIA. Depuis les années 40, à chaque fois qu'il y a un conclave, ils essayent de savoir qui va être le prochain pape. Ça va même jusqu'à introduire des micros dans la salle du conclave où normalement il n'y a aucun appareil autorisé, y compris des téléphones. Une fois que les cardinaux rentrent en conclave, ils n'ont plus de contact avec le monde extérieur. Et donc, à chaque fois qu'il y a un conclave, on trouve des notes de la CIA qui fait plein de supputations dignes des meilleurs vaticanistes. Alors parfois, ils sont dans le vrai et parfois, ils racontent absolument n'importe quoi.
Bien, merci Yvonique de Noël. Alors, votre livre fait plus de 600 pages, donc des anecdotes de ce type et des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'anecdote d'ailleurs, qui sont de l'ordre de l'histoire, il y en a plein. Alors je précise pour ceux qui voudraient aller plus loin que votre ouvrage s'intitule Les espions du Vatican et il est édité chez Nouveau Monde. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert. Jean-Baptiste Audibert a choisi la musique et à la technique, il y avait Serge Viguier et Gilles Gaillard. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain. À suivre, après le flash, Emmanuel Kérad recevra la chanteuse béninoise Angélique Kidjo.